répondre un peu sur cette question de est-ce que les ACI fait partie d'un grand effort de privatiser les droits de travail? Je pense que la citation de la CSI montre l'attitude qui existe maintenant, peut-être pas il y a 15 ans, 20 ans. Est-ce que les négociations de conventions collectives au niveau national, c'est une privatisation de responsabilité de l'État? Non, je pense que c'est une manière d'ajouter aux responsabilités de l'État. Mais dans beaucoup d'États, il y avait les négociations collectives, même avant un encadrement de légal de ces droits. Et il y a encore les pays, y compris l'Allemagne, par exemple, où on ne peut pas aller au juge pour enforcer la convention collective. Ça veut dire que ça existe. Je pense qu'il y avait au commencement une confusion entre RSE et les accords cadres. C'est plus le cas, même côté employeur. Il y a certains qui pensent que c'est le RSE, mais j'ai participé dans plusieurs séminaires avec l'Organisation internationale des employeurs, où ils expliquent que le code de conduite, c'est quelque chose qu'on définit unilatéralement et tous les processus sont unilatéralement, et qu'il faut que les entreprises comprennent qu'au moment qu'ils signent quelque chose, c'est plus contraignant que les déclarations unilatérales. Je ne suis pas d'accord le fait que l'existence, mais peut-être c'est historique, pour nous, dans le mouvement syndical, la reconnaissance d'un syndicat pour une entreprise était toujours important. Pour les autres, peut-être ça n'a aucune valeur, mais ça commence là. Voilà, c'est mon interlocuteur, je dois négocier avec cette personne. Les accords cadres sont à moi, en reconnaissance. Mais il y a aussi les reconnaissances maintenant dans la situation actuelle, sans accords cadres. Il y a les entreprises qui reconnaissent l'FSI comme leur contrepartie. C'est là où ils vont pour régler le problème. ISS, avant qu'ils ont, pendant les années, avant d'avoir un accord cadre, ils ont reconnu Fiat à l'époque, l'Uni maintenant, comme leur interlocuteur. S'il y a un problème, ils règlent entre eux les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui étaient réglés à ce niveau. C'est vrai avec l'UITA, avec Coca-Cola, Nestlé, Unilever, par exemple. Ils n'ont pas d'accord cadre ni avec les trois. Mais ils se rencontrent régulièrement. S'il y a un problème, un côté ou l'autre, ils ont le contact. C'est peut-être aucune valeur, mais j'ai vu les situations concrètes sur le terrain réglées, dans beaucoup de cas. Et je pense que ça a une valeur qu'on n'avait pas avant. C'est vrai qu'il n'y a pas un système de règles contraignant au niveau international. Il faut avoir. Mais de dire que sans ça, on ne fait rien, c'est un peu trop quand même. On a une responsabilité, nous, de défendre les travailleurs. Les accords cadres sont surtout utilisés pour influencer la situation au niveau national, pour donner les possibilités pour les travailleurs de former leurs organisations, de faire les négociations collectives sans les menaces, sans les autres choses que ces grands groupes appliquent de temps en temps. On aura la possibilité dans cette discussion d'approfondir un petit peu. Juste pour les principes directeurs de l'OCDE que je connais depuis 82, la révision qu'on a fait en 2011 était profonde. Ça ajoutait les principes de John Ruggie. Il y avait beaucoup de controverses. Et une des choses que nous avons essayé de faire dans la révision, un peu tard malheureusement, était de corriger ce parti qu'on dit, voilà, c'est volontaire, non contraignant. C'est vrai que c'est non contraignant en termes juridiques, mais par contre, ce n'est pas lié avec les codes de conduite, parce que les contenus ne sont pas définis par les entreprises, le contenu est défini par les gouvernements. Ce n'est pas appliqué seulement si quelqu'un adhère ou soutient. Ça veut dire que s'il y a un cas, on va examiner ce cas avec ce système de point de contact national, même si l'entreprise ne veut pas qu'on regarde ce qu'il fait. Ça veut dire que c'est un peu contraignant quand même. Et pour nous, le bataille de faire marcher les points de contact national, mieux qu'avant, de faire médiation et tout ça. Mais on a quand même réglé beaucoup de problèmes avec les points de contact national et avec le système. Et je ne vois pas comme un code de conduite parce qu'il y a une implication du gouvernement et il y a un rôle à gérer pour le gouvernement et parce que ce n'est pas unilatéral où les entreprises eux-mêmes, dans ce contexte, définir les normes et, sur le terrain, qui est le vrai danger de privatisation. C'est la définition par les entreprises eux-mêmes des normes de international de travail. Voilà, j'ai parlé un peu trop long, mais on va faire la discussion maintenant. On n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, qui veut poser la première question? Voilà, monsieur.
Deux remarques rapides. Merci beaucoup pour les trois présentations et pour vos commentaires. Peut-être d'abord sur les accords cadres internationaux, ce n'est pas forcément une question à Cid, mais en complément pour poursuivre la discussion. En 2007, je fais un terrain de recherche en Amérique latine sur un peu ces questions-là. Puis les deux choses, deux des commentaires qui émergeaient beaucoup sur les accords cadres, c'était comment est-ce qu'ils sont négociés, par qui en particulier. C'est la question des signataires que tu soulevais. Il y avait beaucoup de critiques à l'égard du fait que c'était effectivement essentiellement négocié en Europe, alors que la portée avait une portée plus large et que les syndicats à l'extérieur de l'Europe n'étaient pas nécessairement consultés. Et je me souviens d'avoir interviewé un cadre de ce qui était la FIOM à l'époque, la Fédération internationale des ouvriers de la métallurgie, qui maintenant est industrielle, et qui m'avait dit que la FIOM à l'époque commençait à réfléchir justement, elle était un peu inquiète du fait que certains de ses propres membres soutenaient certains de ces accords-là sans la consulter elle. Et qu'il y avait une volonté justement d'établir un certain nombre de balises et de critères pour faire en sorte qu'il y avait des accords qui étaient reconnus par cette fédération-là et d'autres qui ne l'étaient pas. En particulier aussi parce qu'en Europe, les travailleurs ne sont pas nécessairement représentés par des organisations syndicales. Mmh. Dans certains pays, c'est par des comités d'entreprise européens, qui ne sont pas nécessairement organiquement liés aux organisations syndicales, qui parfois sont désignés suivant des modes très très différents, et qui des fois s'arrogeaient la possibilité de signer ces accords-là sans obligation de consultation. Donc je ne sais pas si depuis il y a eu un travail plus approfondi qui a été fait pour baliser puis pour définir ces accords-là. En fait, c'est quelque chose que je mets au jeu. Et je pense que ça reflète aussi quand même une tendance forte des organisations syndicales internationales à être un peu historiquement eurocentrées. Et même s'il y a eu des évolutions importantes dans les dernières années, il y a quand même cette tendance historique forte qui persiste. L'autre élément que je lancerai à l'ensemble des intervenants, il y a une initiative qui a été prise par l'ONU et en particulier par l'OIT, mais l'ensemble de l'ONU, je pense, depuis l'année dernière. Et là, je parle de quelque chose que je connais encore assez peu, mais je voulais juste savoir si vous en aviez entendu parler, puis dans quelle mesure est-ce que vous l'intégriez à vos réflexions. C'est le Global Social Protection Forum, initiative, qui est donc cette idée de, d'après ce que j'ai compris, d'essayer de coordonner à l'intérieur de l'ONU une espèce de nouvelle base normative sur l'idée d'un minimum de protection sociale établie à l'échelle internationale. On sait que l'OIT avait développé tout le discours sur le travail décent dans les dernières années, cette espèce d'établissement de normes encore non contraignantes, mais en essayant d'intégrer une espèce de discours transnational sur ces questions-là. Dans quelle mesure est-ce que ça pourrait s'intégrer dans vos réflexions, être une espèce de plateforme d'articulation entre différents espaces, ou au contraire, quelque chose qui juste un discours qui se rajoute sur d'autres discours et qui, en fin de compte, n'aboutit pas à des éléments contraignants.
Voilà. On veut répondre ou peut-être il faut répondre tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette réponse. Qui veut prendre le problème?
Peut-être très rapidement pour répondre à Thomas. Oui, tu as raison concernant la question de la double représentation en Europe qui pose problème. Et donc, effectivement, des accords peuvent être négociés sans que des instances syndicales nationales ou internationales puissent être impliquées. Il y a ce problème-là. Mais qui montre bien aussi la projection des modèles nationaux européens dans l'Europe sociale. C'est pour ça que le cas de l'Europe aussi est spécifique. Il y a aussi le fait que les FSI, les fédérations syndicales internationales, ne sont pas mandatées pour négocier des ATE, des LEXA en Europe aux organisations nationales. Et pour le moment, c'est sur la base de règles informelles. C'est encore très peu précis à ce niveau-là, à l'exception peut-être de la FIOM et de l'UNI, qui se sont dotés de critères précis pour l'attribution de ces prérogatives de signature d'ATE. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Pour la seconde, c'est pour ça que je suis content que Jim Buckle soit là. Je voudrais avoir son sentiment sur le... Bon, la thèse ici que je défends, ce n'est pas de dire que c'est un droit international privé ou rien. La question, c'est ce paradoxe. Hein, dans lequel s'engagent les FSI à travers les ACI, et dont on voit bien, dont on ne peut pas éviter de constater, qu'ils se dirigent vers la formation d'un droit, quand même, d'un droit international privé. Alors la question que je pose à ce niveau-là, et que je vous pose, c'est pourquoi ne pas projeter à l'échelle internationale ces deux stratégies historiques qui ont réussi aux mouvements syndicaux nationaux, hein, qui consistait à défendre un peu surtout la négociation collective, et surtout cette stratégie qui consiste à homogénéiser les stratégies. Par exemple, pourquoi accepter aujourd'hui l'existence de ces accords cadres internationaux totalement différents les uns par rapport aux autres? On a une diversité extraordinaire de ces accords cadres. Est-ce que certaines structures du mouvement syndical international, dont les FSI en particulier, ne pourraient-elles pas, par exemple, s'inspirer un peu des stratégies américaines en particulier qui consistent à cibler un type d'entreprise pour ensuite généraliser un modèle de négociation collective? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça à l'échelle internationale, au niveau des accords cadres internationaux, pour éviter cette extraordinaire diversité, ce caractère hybride qui finalement permet aux entreprises multinationales de se soustraire à toute forme de contraintes juridiques en matière de négociation des conditions de travail, de rémunération?
Je connais, moi récemment, mais depuis longtemps, les conventions collectives aux États-Unis, et je ne crois pas que c'est vrai que toutes les conventions collectives sont les mêmes aux États-Unis. Pas du tout.
Non,
ils sont extrêmement différents. Mmh. Il y a les conventions collectives de 10 pages, les autres de 200 pages. Les contenus sont réglés. Ça s'adapte aux industries. Ça veut dire que pour moi, il n'y a rien qui est anormal de voir qu'il y a une diversité des accords. J'étais plus concerné à l'époque qu'il y avait, je ne dis pas publiquement, mais presque publiquement maintenant, il y avait une époque où les accords cadres se ressemblent trop. Ils étaient presque copier-coller parce qu'on a fait un code de conduite modèle en 1997 qui n'était pas pour nous ou pour les accords cadres, mais était pour les codes de conduite parce que 80% des codes de conduite n'avaient aucune référence aux droits syndicaux. Et on a voulu corriger ces choses et on a proposé ça. Et certains des GAF, y compris le FIOM, ont pris ça comme le modèle et ils ont fait ça avec les accords cadres. Le fait maintenant qu'il y a une complexité, une différence et que les accords cadres sont beaucoup plus liés avec l'industrie, les entreprises, les relations de les entreprises, je ne vois pas comme négatif, je vois comme très très positif. Ça veut dire que ça devient de plus en plus comme les relations industrielles, les relations professionnelles, où ils renouvellent leurs accords cadres avec les changements, parfois les changements très importants dans le contenu. Pour la question sur l'Amérique latine, par exemple, c'est vrai qu'il y avait plusieurs accords cadres qui étaient négociés par IG Metall en allemand, et le FIOM n'était pas même autour de table. Ça a changé, mais il y avait une époque où il y avait plusieurs accords comme ça. Maintenant, il y a une consultation, et même avec ces accords cadres, ils ont découvert, après qu'ils étaient signés, qu'ils n'étaient pas bien placés pour voir ce qui se passe. Il y avait un problème avec un sous-traitant au Brésil, je me souviens. Et c'était le FIOM qui a dû intervenir, ce n'était pas IG Metall qui peut régler le problème en allemand. Et je pense que le contexte là a changé aussi. L'UNI, par contre, n'a pas beaucoup de contraintes sur la négociation des accords cadres, mais FIOM, c'est pas FIOM maintenant, mais industriel, ISEM, ITGLWF, qui est les organisations qui ont fait industriel, ils avaient tous leurs règles. Ça veut dire que c'est une manière aussi d'imposer le contrôle démocratique. Le bois et bâtiment, un modèle pour les accords cadres. J'ai négocié avec eux et on a utilisé ce modèle avec une entreprise pour essayer de assurer que certains éléments sont là. Il y a les questions que vous avez très bien soulevées sur le changement d'organisation de travail, la sous-traitance, tout ça, c'est extrêmement compliqué maintenant. Mais c'est très difficile de persuader les entreprises d'intervenir à l'extérieur de l'entreprise. Mais c'est très important. Mais on est arrivé avec GDF Suez, négocier un accord qui parle surtout de ces questions et de l'utilisation des agences intramères, privilégiant les relations directes avec les travailleurs. Et toutes ces questions de relations d'emploi sont très, très importantes, le travail précaire et tout ça. Sans ou avec le cadre, c'est important. Mais le fait qu'on essaie de régler ces questions au niveau international, ce n'est pas en faute, c'est plutôt positif. Voilà. Prochaine, est-ce qu'il y a les autres qui veulent répondre? Non,
ou jeter moi, je peut-être pour oui, la deuxième allez-y. Question, hein, Thomas. Moi, je pense que c'est tout à fait important s'il y a un plancher, parce que dans le fond, ce qu'on parle, surtout lorsqu'il s'agit dans les clauses sociales d'éviter la concurrence déloyale et le nivellement par le bas, surtout dans les pays où le coût de la main-d'œuvre est perçu comme un avantage compétitif, je pense que c'est tout à fait intéressant. Et ça me rappelle lorsque tu avais organisé la venue de, je pense, Anne Latendresse, qui avait parlé justement du syndicalisme européen, qui n'arrive pas à parler du salaire, finalement, le salaire minimum. Et je pense que cette initiative-là est tout à fait nécessaire. Si on veut inventer quelque chose, une protection des travailleurs, il va falloir, à un moment donné, qu'on parle de ce qui fait vraiment la différence chez le travailleur, c'est-à-dire c'est le minimum et c'est le salaire. Et c'est non seulement la détermination de ses conditions de travail, mais c'est aussi l'annulation de la possibilité de faire une concurrence loyale et d'alimenter le nivellement par le bas. Je pense que ça, c'est tout à fait intéressant.
C'est Anne Dufresne,
spécialiste des salaires. Ah, excuse-moi, c'est pas du tout la même personne.
Je pense que c'est un des raisons que toutes ces choses doivent aller ensemble. Ce grand programme au Cambodge, j'avais toujours quelques doutes. Mais il y avait une étude récemment qui a montré que tous ces accomplissements n'ont fait pas grand-chose pour les salaires des gens. Mm-hmm. Ils sont 18% plus pauvres que commencement. C'est un grand progrès. Mm-hmm. Mais pour ça, il faut ingérer dans une manière dans la concurrence. Sinon, on va arriver avec les gens qui ont certaines droits, mais ils sont très pauvres et ne voient pas aucun moyen d'améliorer les conditions. Et ça, on ne peut pas faire, même avec les interventions de BIT. Pour le social protection, c'est vrai que c'est la protection sociale. C'est une discussion assez intéressante. Et la commission qui était dirigée par l'ancien président de la Chili a fait un bon rapport. La discussion au BIT était très bien. Il y a un intérêt côté patronal. Et je pense que c'est une idée qui peut se développer de faire un minimum partout. Et les coûts ne sont pas énormes. C'est ça qui m'a choqué un peu. Si on le met dans un contexte international, les coûts ne sont pas énormes. Si on met un peu d'argent qu'on a utilisé pour sauver les banques, par exemple, tout de suite, on a beaucoup de couverture sociale partout. Notre question. Voilà. Le premier, je pense.
Oui, merci. En fait, c'était un peu un commentaire aussi pour poursuivre ce que vous disiez, M. Baker, et suite à la présentation du professeur Soucy sur la question du droit dur et du droit mou. Le droit, je ne suis pas experte dans les questions du droit du travail, mais le droit dur n'est peut-être pas non plus si efficace. C'est peut-être pas cette vision d'espace-monde est peut-être quelque chose d'un peu utopique finalement parce que cette idée de contrainte, peut-être qu'on peut je pense qu'on a des démonstrations, des exemples, on peut l'atteindre beaucoup plus que d'avoir un entente de hard law. Probablement, une entente de hard law, c'est très long à négocier. Il y a aussi des désavantages à avoir ça, puis ça ne touche pas non plus tous les parties, ça ne touche pas tous les pays, que les parties qui sont là. Alors qu'avec le droit plus mou, le soft law, on arrive à toucher peut-être un ensemble de joueurs parce que justement, ce n'est pas ratifié ou impliqué. Mais mon point, c'était plutôt de dire que le droit international, c'est un droit qui évolue. Puis ce que le professeur Rioux disait, par exemple, c'est qu'avec la NAC, on ne parlait pas des critères de l'OIT et que maintenant, petit à petit, ces critères-là rentrent dans... Et il y a un autre exemple à l'OMC, c'est le Codex Alimentarius, qui aussi est un instrument de droit mou, mais qui maintenant fait partie des discussions et qui fait intrinsèquement partie de l'accord sanitaire et phytosanitaire. Donc, on parle d'un durcissement du droit mou. Donc, peut-être au lieu de vouloir, parce que je pense qu'aussi le fait d'avoir des acteurs non étatiques, qui était mon dernier point, on ne peut pas aller chercher un accord homogène, contraignant, lorsque on fait affaire avec des acteurs qui sont aussi les entreprises et les syndicats. Donc, peut-être que la voie est plutôt d'essayer de durcir les critères, les accords, les instruments qui sont mous en ce moment dans des instruments plus durs, en impliquant bien sûr les États et aussi au niveau national. Mais cette idée de créer un accord, je suis plutôt d'accord avec M. Baker là, dans ce sens-là.
Peut-être qu'il faut prendre... je ne sais pas comment on est pour le temps, c'est 10h30, 32. On prend peut-être les dernières deux questions et on essaie de répondre ensemble et après on fait la prochaine séance. Voilà, monsieur, oui.
J'aurais comme en faire après sur la responsabilité sociale des entreprises. Donc, ça m'apparaît assez contradictoire dans le sens que les entreprises sont toutes faites, même juridiquement, pour une responsabilité sociale, pour un devoir de rapporter de l'argent à leurs actionnaires. Donc, de leur demander de jouer un rôle social, ça m'apparaît un peu contradictoire. Rapidement, mais pour ce qui est des accords cadres internationaux, je classerais ça dans une catégorie un peu différente. Premièrement, en attendant la régulation publique, on fait quoi? C'est sûr qu'il faut faire des choses. Et les FSI ont un mandat de relations industrielles au niveau international. Donc, c'est normal qu'elles veuillent négocier ce type d'accord-là. Moi, il m'apparaît que c'est plus un peu complémentaire, c'est plutôt la CSI qui s'occupe de la régulation publique. Donc, de la part des FSI, ça m'apparaît tout à fait normal. Et je trouve ça normal aussi que les accords soient différents parce que c'est le produit des rapports de force entre les syndicats et les entreprises. Donc, dans le secteur de la métallurgie, par exemple, c'est normal que la FIOM, aujourd'hui industrielle, c'est une des accords beaucoup plus substantiels que, par exemple, dans le textile ou dans l'alimentation. Et les accords internationaux ici sont aussi forts que le mouvement syndical, que la force que leur donnent les syndicats. Une fois que l'accord est signé, si les syndicats s'en occupent pas, bien, c'est normal que l'accord soit assez faible. Par exemple, la première condition qui soit effective, c'est qu'il faut que tous les syndicats à travers le monde soient informés de ça, ce qui n'est pas toujours le cas. Un cas assez significatif. Et on a eu un accord cadre international au Québec, c'était Québécois en World, qui n'existe plus. Un accord qui a été signé. Et à l'époque, je faisais la recherche là-dessus, c'est moi qui annonçais au syndicat, que je n'aimerais pas, qui avait signé un accord cadre finalement avec Québécois en World. Et je l'avais envoyé la copie de l'accord que j'avais obtenu de l'ONU. Un petit exemple.
Voilà, il y a une dernière question.
Je suis juste. Maintenant, mon dernier commentaire. Moi, je suis plutôt porté vers une complémentarité entre les différentes sources, les sources publiques, les sources privées, les sources nationales, les sources internationales. C'est sûr que les accords cadres sont en début de négociations collectives sur le plan international. Il faut reconnaître que sur le plan national, par exemple ici au Canada, on a commencé avec le Gentleman's Agreement. Et puis, les conventions collectives sont devenues des instruments obligatoires reconnus par l'État. Et c'est sûr qu'il y a certaines choses où il y a certaines choses qu'on doit régler si on veut donner plus de pouvoir sur le plan international aux syndicats. Parce que, par exemple, dans la plupart des pays, déclencher une grève de solidarité pour un enjeu international est interdit par la législation parce que l'exercice du droit de grève est collé de façon très étroite à la négociation collective sur le plan local. Donc ça prend une modification des législations internes et de ce côté-là probablement l'OIT pourrait orienter ce type de modification. Mais moi je suis plutôt avoir une vision d'ensemble où ces différentes sources sont plutôt complémentaires les unes par rapport aux autres.
Voilà. Qui veut répondre? Tout le monde a la possibilité. C'est la dernière possibilité.
Je vais peut-être commencer sur la responsabilité sociale. Donc, de dire que qu'on ne peut pas demander à l'entreprise, c'est peut-être une façon alambiquée de poser la question parce que l'entreprise a été la première à dire « je suis responsable socialement, je fais de la responsabilité sociale ». Donc, ce n'était même pas une demande au départ, c'était l'entreprise qui disait « moi, je suis capable de faire de la responsabilité sociale, donc je n'ai pas besoin d'être régulée ». En gros, je simplifie la rhétorique, mais la rhétorique était assez simpliste aussi. Donc, ça démarre comme ça. Et après, la question, c'est plutôt de quelle responsabilité sociale parle-t-on? Parce que là, on a une responsabilité sociale qui est présentée comme allant de pair avec la rentabilité, parce que, par exemple, on se préoccupe des parties prenantes qui, autrement, pourraient soit faire des campagnes de boycott, soit détruire des installations, etc. Donc, on présente la responsabilité sociale comme une manière de gérer les risques sociaux et environnementaux, et donc ça devient rentable. Et tout le problème est dans l'idée que, est-ce que la responsabilité sociale se réduit à des mesures rentables? Alors, évidemment, non. Et là, la question est de dire, OK, alors comment est-ce qu'on fait pour imposer un contenu de responsabilité sociale qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'on appelle le business case de la responsabilité sociale, c'est-à-dire cette convergence, qui passe notamment à travers un meilleur partage de la plus-value, qui passe à travers la prise en compte d'externalités environnementales qui, n'étant pas intégrées dans le système économique, restera toujours un coût supplémentaire pour l'entreprise. Donc, c'est ça la question. C'est quel est le contenu, qui décide et jusqu'où internalise-t-on les coûts environnementaux et sociaux, quitte à ce que, effectivement, ça corresponde à un fardeau plus important pour l'entreprise. Donc, je pense que c'est là le problème. Maintenant, pour ce qui est du droit mou et du droit dur, bon, moi, je trouve que c'est une expression qui est problématique. Je n'ai pas trouvé, malheureusement, de remplacement pour parler du droit mou. Je pense que la distinction droit mou, droit dur comporte une grave limite sur l'évolution du droit. L'évolution même du droit dur, le droit dur n'est plus ce qu'il était. Il est beaucoup plus poreux. Et de parler de droit dur, droit mou, malheureusement, ça stigmatise une catégorisation qui empêche de penser les développements actuels du droit. Et pour ça, ça me gêne. Malheureusement, comme je disais, je n'ai pas trouvé encore de remplacement pour cette expression de droit mou. Mais je pense effectivement que la question qu'il faut se poser, et puis justement, ça me permet de rebondir sur la thèse de mon collègue Soucy, c'est est-ce que ce qui ne nous préoccupe pas d'abord, c'est l'effectivité de la norme. Qu'elle soit molle ou dure, en fait, quand on dit que le droit dur est préférable, c'est parce qu'on assume que le droit dur est plus effectif que le droit mou. Et là, ce n'est pas certain. Il faut aller voir sur le terrain. Et parfois, il appert que le droit dit mou, et c'est par là que la norme a été implantée, respectée, etc. Donc, je crois que ça, c'est le premier critère. Et ça m'amène donc à la question que j'aimerais poser à mon collègue, c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger, parce que j'ai l'impression que dans le modèle qui est présenté, qu'il y a une certaine esthétique, mais on pense vase communicant. C'est-à-dire, s'il y a un code de conduite, c'est parce que nécessairement, il y a quelque chose de moins de l'autre côté. Et je trouve que c'est esthétique, mais en même temps, je ne suis pas sûre que c'est ça qui se passe. Moi, j'ai plutôt tendance à voir le droit mou, effectivement, comme support à d'autres outils. Et il est peut-être vrai que dans la conjoncture actuelle, on observe qu'il y a éventuellement un recul, et puis en même temps, il y a tous ces outils, mais je ne suis pas certaine que l'un soit causal par rapport à l'autre. Et donc, je trouve la critique esthétique et intéressante, mais en même temps, je n'arrive pas à être totalement convaincue. Voilà.
Oui, je vais juste rebondir un peu là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je partage ton incertitude concernant cette question et l'effectivité surtout des dispositifs liés au droit mou ou au droit dur. C'est pour ça que j'ai insisté pour dire que l'expression, évidemment, je me suis démarqué un petit peu cette expression-là, bien entendu, mais c'était un petit peu juste pour qualifier un peu, pour reprendre la qualification que certains attribue à cette tendance de l'action syndicale internationale. C'est sûr aussi que se fonder uniquement sur le point de vue d'Ulrich Beck pour parler d'espace-monde, oui, c'est un peu utopique, bien entendu, mais c'est aussi une façon aussi de faire changer les choses aussi. C'est pas... Donc le but, c'est pas de, de passer de but en blanc comme ça, mais comme vous l'avez dit, je suis tout à fait d'accord avec, avec vous, c'est de durcir peut-être ce dispositif du droit mou, puisqu'il faut bien les appeler par un qualificatif quelconque, en ce moment c'est ça, et que donc il faut durcir ces dispositions. Et de ce point de vue-là, moi je pense qu'il y a un certain nombre de possibilités. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure d'homogénéisation, il ne s'agit pas d'homogénéiser les ACI, il ne s'agit pas de produire un modèle type, mais il s'agit surtout d'établir un minimum de conditions, un minimum de critères pour définir des conditions de travail et de rémunération, ne serait-ce que de façon sectorielle. Et ça, le mouvement syndical est capable de le faire. Donc, en termes de contenu, on peut durcir la chose. En termes de forme aussi, on peut durcir aussi la tendance. En termes de forme, on peut, par exemple, demander les FSI. Si je dis ça, c'est parce que plusieurs syndicalistes m'en ont parlé directement, des responsables de fédérations syndicales internationales et de centrales syndicales le disent. Ils disent aussi que, qu'il faut insister sur la représentation collective des entreprises au niveau international. Pourquoi faut-il toujours signer des accords à titre individuel au niveau des entreprises et à titre collectif au niveau des salariés? Et donc, lorsqu'on parle de durcir le droit mou, c'est justement de responsabiliser les entreprises à ce niveau-là, et donc leur donner une véritable responsabilité au niveau de la négociation collective, au niveau de l'effectivité des dispositifs prévus dans ces accords. Donc, lorsque je parlais un peu de cet espacement, c'est un petit peu plus vers... pour tendre vers ce durcissement du droit mou. Voilà, je m'arrêterai là parce que...
Oui. Je pense que finalement, lorsque la norme, le droit, il est mou, c'est parce que finalement, la norme, elle est faible. Parce que si la norme, elle est faible, elle est rentrée dans la coutume et on n'a pas besoin d'une contrainte forte. Hein. Donc, moi, c'est de la manière dont je vois ça, c'est-à-dire que... Et c'est un petit peu, lorsque j'ai parlé de deux modèles, hein, dans les clauses sociales, il y avait l'Union européenne et les États-Unis. Les États-Unis sont plus portés à imposer une norme, veulent la construire par la force, tandis que l'Union européenne a toujours une approche plus OIT, hein, c'est un peu plus la séduction, c'est-à-dire on va convaincre. Hein, ils trouvent ça plus fort, c'est-à-dire que finalement la norme va s'imposer par une internalisation vraiment beaucoup plus profonde que d'avoir quelqu'un qui va te sanctionner parce que de toute façon, je veux dire, ton comportement, il n'est pas du tout normé. Hein, donc, je pense que c'est un processus de socialisation. Et puis, dans ce sens-là, pour revenir à la responsabilité sociale des entreprises et du durcissement, ou peut-être pas du durcissement, mais la socialisation de la responsabilité sociale des entreprises, dans le sens de la rendre un peu plus publique, je pense qu'un phénomène qui est tout à fait intéressant, qui est en train d'émerger, c'est les politiques publiques au niveau national qui visent justement la responsabilité sociale des entreprises. Donc, au-delà d'une stratégie de développement durable, etc., qui est plus une promotion, je pense par exemple à une loi qui a été adoptée et qui entre en vigueur en Californie sur le Global Value Chain, hein, où les entreprises maintenant ont une obligation de reporting, mais aussi de vérification externe, etc. C'est une loi qui est quand même, je pense, assez dure dans ce sens-là, même si elle reste volontaire.
J'encourage tout le monde à lire, si vous pouvez lire l'anglais, le UN Guiding Principles on Business and Human Rights, parce que c'est un effort de développer cette complémentarité que vous avez parlé. Le rôle du gouvernement, le rôle des entreprises, le rôle du gouvernement de protéger les droits, les obligations des entreprises de respecter ces droits, et la nécessité d'avoir un mécanisme ou un remède dans les deux cas. Je pense que vous avez raison. Je pense que le loi, soft law et hard law, il y a tout un range de choses à remplir. John Ruggie a toujours parlé avec les entreprises dans beaucoup de lieux où j'ai assisté de vos obligations. Il n'a jamais parlé de volonté, des obligations. Mm-hmm. Les droits humains sont ça. Vous êtes obligés de le faire. J'étais il y a quelques mois dans une discussion sous le le Global Compact, où il y avait une entreprise qui a dit, utiliser les RSI, on fait ça, on fait les bonnes choses, blablabla. Et il était impromptu par un représentatif de Nestlé qui a dit, c'est l'ancien discours, maintenant on parle de vos obligations. Qu'est-ce que vous faites d'éviter les effets négatifs sur les droits humains? Ça a changé profondément le contexte. Je vais parler un peu sur ça après le déjeuner. Finalement, sur le RSE, pour moi, je vais exagérer, je vais être un peu provocatif aussi. Mais si on veut regarder la fiabilité et l'efficacité des RSE, je vous donne deux exemples. Le premier, c'est la crise financière. Qui était mieux ou plus responsable que les banques? Même au roi en France, les fonds de pension avec la responsabilité sociale dans le credo, ils ont investi surtout dans les banques. Parce qu'on a confiance en banques. Hein. Même si on est sceptique sur les autres entreprises, les banques, c'est trop important. Mais vous avez vu ce que les banques ont fait pour nous. Voilà, ça monte que l'autorégulation et tout ça marche bien, non, la crise financière. Deuxièmement, l'incendie récemment en Pakistan, presque 300 personnes sont tuées. Dans une usine qui était certifiée avec les normes de SA 8000. Voilà, ça résout les problèmes de ce côté aussi, non? C'est un peu sceptique, mais pour montrer que maintenant, dans le contexte actuel, beaucoup de gens, y compris les entreprises, ne disent pas la même chose qu'ils ont dit avant. Ce n'est pas sérieux, ce qu'on a dit avant. Cette question que voilà, le business case. Ce n'est pas nécessaire de faire un business case pour respecter les droits humains. Ce sont les droits humains, il faut les respecter. Il ne faut pas persuader quelque chose, il faut gagner plus d'argent s'il respecte les droits humains. Et je pense que c'est très important. Enfin, cette question de lien entre les questions politiques qui s'occupent le CSI, surtout et comme les centres nationaux qui sont les affiliés, et les choses sectorielles et très spécifiques dans les FSI, c'est la raison que nous existons. Le Council of Global Unions était formé pour essayer de créer un peu mieux, un peu plus de cohérence entre les deux rôles interdépendants, mais qui sont nécessairement différents. Et je pense que la même chose est arrivée dans une manière dans chacun de nos organisations. Et c'est un peu une manière de combiner nos expériences et nos échanges. Et j'ai vu les choses changer radicalement dans les 30 ans où j'étais actif au niveau international. Les attitudes ont changé, la ressemblance entre les activités syndicales nationales et internationales sont beaucoup plus qu'avant. Et les questions sur lesquelles on est engagé est beaucoup plus liée qu'avant. Et la discussion sur les ACI, c'est un élément qui monte les changements radicaux. Le fait qu'on fait une vraie consultation, parce que c'est important, le contenu de l'ACI et la manière que c'est fait, qu'il y ait les méthodes plus importantes de suivi, ces accords. Et que même si on a des accords, ça ne nous empêche pas de poser plainte à l'OCDE, par exemple, qui existe actuellement sur l'accord ici en Canada. On a un accord cadre avec accord pour les hôtels, mais il y a aussi une plainte devant l'OCDE sur la situation au Canada avec les activités antisyndicales. Ça veut dire qu'il faut combiner les autres outils. C'est pas trop compliqué. C'était un peu trop simpliste de penser avant qu'on peut résoudre les problèmes en faisant ça ou en faisant ça. Il faut combiner les choses. Voilà.